Voici la revue de presse internationale maintenant. Bonjour Jacqueline Fardel.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Les réfugiés Rohingyas vont-ils rentrer chez eux ?
Je vais mélanger du poison à la nourriture. Je me tuerai moi-même, mes enfants et toute ma famille si je suis obligée de partir. Fatima Nour a 50 ans. Elle est réfugiée Rohingyas dans le camp 24 au sud du Bangladesh où s'est rendu le Los Angeles Times. Comme Fatima, pratiquement aucun réfugié n'est disposé à retourner dans l'état Rakhine au Myanmar. Les Rohingyas ont subi une persécution systématique. En 2017, des centaines de milliers de personnes ont fui l'offensive gouvernementale, qualifiée par les Nations Unies d'exemple classique de nettoyage ethnique. Depuis 2 ans, à la frontière entre les deux pays, au moins 1 million de réfugiés se sont retrouvés dans des camps surpeuplés, mais personne n'a exprimé la volonté de faire demi-tour. Une première tentative de retour des réfugiés a échoué en novembre 2018, rappelle Asia News, faute de volontaires. Cette semaine, le Myanmar et le Bangladesh font un nouvel essai, mais la réalité sur le terrain est désastreuse, explique le Bangkok Post. Ces derniers mois, des violences ont éclaté entre les insurgés de l'état de Rakhine et les forces gouvernementales du Myanmar. Le gouvernement a suspendu internet et le téléphone dans plusieurs communes, notamment là où le retour des Rohingyas est prévu. Il n'y a plus d'électricité depuis des semaines, ce qui rend impossible d'avoir une idée précise de ce qui se passe sur le terrain. Pour le quotidien de Bangkok, il serait donc irresponsable de commencer le rapatriement tant qu'une grande partie de l'état de Rakhine reste sérieusement touchée par le conflit qui a encore déplacé 60 000 personnes depuis janvier. Trouver des solutions durables va bien au-delà du rapatriement des Rohingyas. Un rapatriement censé commencer jeudi, écrit The Daily Star, au Bangladesh. Le gouvernement birman acceptera un groupe de plus de 3 400 personnes déplacées. Ceux qui ont exprimé leur souhait de revenir sont reçus par le Haut Commissariat aux réfugiés. Est-ce que la liste des volontaires est prête ? Le travail se poursuit, répond le HCR. L'ONU a répété à plusieurs reprises qu'elle ne pensait pas que la situation actuelle permettrait un rapatriement à grande échelle. « Ma vie est finie », dit encore Fatima au camp 24. « Je vais probablement mourir dans ces camps. Si je rentrais, je condamnerais mes enfants et petits-enfants à la même vie que moi, à Rakhine. »
Alors partir, revenir, les questions d'un été 1989 aussi en RDA.
Cet été-là nous raconte Le Monde dans une série, Mon dernier été en RDA. De nombreux Allemands de l'Est songent à fuir leur pays quelques mois avant la chute du mur, le 9 novembre, il y a 30 ans. Le dernier été communiste de 16 millions d'Allemands de l'Est, les ultimes souffles d'un monde sur le point de s'effondrer. Celui d'Angelika Ampel s'effrite, lui, depuis 45 ans. Elle a choisi de rester à l'Est, à Dresde. À l'époque, en 1974, elle avait reçu les clés de son appartement dans un immeuble de la Johannstadt. Et elle avait eu de la chance, nous raconte Die Zeit. Les listes d'attente étaient longues. Le secteur sentait bon, le béton frais promettait un peu de luxe en RDA. Grand magasin, jardin d'enfants, l'école juste devant, le chauffage central, une cuisine moderne. Le rêve de nombreuses familles. Il n'y avait rien de mieux pour nous à l'époque, raconte Angelika. Mais en 2019, rien de tout ce bonheur n'est resté. Les couloirs sont sales. Il y a des poubelles devant les portes. L'ascenseur est branlant. Angelika, 78 ans, vit toujours dans ce bloc de 10 étages au 6e. Ils ne sont plus que 3 des locataires d'origine. Beaucoup sont partis à l'ouest. Personne n'aspire plus à vivre dans la Johannstadt. C'est ici qu'habitent les retraités et les migrants. Il y a toujours des déménagements. Mais l'appartement d'Angelika est resté son refuge. Elle a gardé des souvenirs sur un mur. Cette plaque en or, près de la RDA, pour les ménages exemplaires. Quelques temps après la chute du mur, quelqu'un l'avait dévissé de la porte d'entrée. Un bibelot dont plus personne n'avait besoin. Je croyais au socialisme, dit-elle, malgré les défauts du système. La RDA, c'était surtout pour elle le sens de la communauté. Cette salle où tous les résidents célébraient Noël, la journée des enfants, sans raison. Aujourd'hui, la vie dans l'immeuble est de plus en plus anonyme, le loyer plus élevé. Mais Angelika ne veut pas partir. Vous ne transplantez pas un vieil arbre.
Partir, revenir toujours et cette Europe qui se dépeuple dans la presse.
C'est le titre de La Croix ce matin. Nos regards sont tournés vers les flux qui traversent la Méditerranée, beaucoup moins vers les déplacements de populations internes à l'Union européenne. Or, ils sont importants, constate Le Quotidien. Certains pays d'Europe centrale, orientale et méridionale connaissent une nette diminution de leur population. En cause, le faible nombre de naissances et le départ de nombreux ressortissants pour chercher la prospérité dans l'ouest du continent, en Allemagne ou au Royaume-Uni. À Torrent-Jossio, le silence est ainsi le principal acteur du village à 1h30 de Madrid. Il reste 200 habitants, 4 enfants. Rien qu'en 2016, la ville a perdu 23% de sa population. Et cette situation n'est que la partie émergée de l'iceberg, raconte Le Quotidien écossais The Herald. Dans la région de Cuenca, la population a diminué d'un tiers depuis le début du XXe siècle, un des dépeuplements le plus important de l'Union européenne. Mais les autorités locales pensent avoir la solution. Ils veulent copier l'Écosse et son effort d'un demi-siècle pour garder les gens dans les Highlands et les les îles. C'est le résultat notamment de l'action d'un conseil de développement autonome créé en 1965. Un soutien accru aux entreprises rurales, le développement du numérique, des transports, de campus dispersés. Les Highlands ont renversé le déclin démographique et retrouvé 470 000 habitants, l'équivalent de la population de 1850. Partir donc pour mieux revenir parfois.